CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « L'évangélisation porte du fruit ». Oui, ça porte du fruit, l'évangélisation.
Amen.
On va faire une petite suite à vendredi dernier, si vous êtes prêts. Vendredi dernier, on a parlé déjà avec toi, Aurélie, de l'évangélisation. Aujourd'hui, on va aller dans une direction un petit peu différente. On va parler, non seulement on va rappeler combien ça porte du fruit et ça peut en porter, mais aussi on va parler de cette stratégie qu'on peut recevoir directement du Saint-Esprit qui va nous amener à faire des choses surprenantes pour gagner des âmes. Mmh. Et en deuxième partie d'émission, on va avoir le témoignage d'une sœur qui s'appelle Célestine, que vous connaissez d'ailleurs, Anne et Jonathan, elle est dans votre église.
Sans frontières.
Exactement. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup aimée, cette sœur. Elle est responsable de l'évangélisation dans son église et puis, en fait, elle porte beaucoup, beaucoup de fruits parce que, justement, elle est vraiment inspirée du Saint-Esprit. Mmh. Et elle va parler non seulement de son histoire de conversion, mais aussi des fruits, justement, que portent les actions d'évangélisation qu'elle mène, et c'est super édifiant et ça donne envie en fait de vivre des choses comme ça. Donc un très très beau témoignage qu'on découvrira.
Elle est très motivante.
Elle est très très motivante, tout à fait. On découvrira ça en deuxième partie d'émission. Donc Aurélie, si t'es prête, on démarre avec toi sur les chapeaux trous dans la pensée du jour.
Dans la parabole du semeur que vous pourrez lire dans Marc 4 ou dans Matthieu 13, le Seigneur nous enseigne en fait ce qui se passe lorsqu'une personne entend le message du royaume de Dieu. Et on voit que lorsqu'on sème la parole, il y a quatre types de cœurs différents. On a celui qui comprend, qui ne comprend pas en fait la parole prêchée, et puis le diable profite pour arracher cette semence de son cœur. On a celui qui reçoit la parole avec joie, mais qui est inconstant. Il n'y a pas de racine, du coup il abandonne lorsque les persécutions arrive. On a celui qui écoute la parole mais ne porte pas de fruits parce que la parole est étouffée par des préoccupations mondaines et l'attrait des richesses. Et enfin, on a celui qui écoute, qui comprend et qui porte du fruit, 100, 60 ou 30, comme la parole nous l'explique. Et lorsqu'on parle parfois d'évangélisation, on est souvent très conscient de cette parole. Et là, je veux m'adresser aussi aux leaders d'évangélisation dans les églises. Parfois, comme ça, on va dire, pour encourager les gens, si t'as pas de résultat, mais c'est pas grave, en fait, tu as fait ta part, au moins tu as semé la parole, et le reste, c'est pas à toi de le faire, etc. Mais en fait, il faut faire attention lorsqu'on tient ce discours, parce que quelque part, on est en train de dire, c'est pas grave s'il n'y a pas de résultat, et pourtant, c'est pas cette pensée avec laquelle on devrait évangéliser. On devrait évangéliser avec la pensée de dire, ma semence à moi, alors que je vais sortir pour aller évangéliser, ce sera ma semence qui va porter du fruit. Et c'est très important de penser comme ça lorsqu'on soit évangélisé. En fait, on ne va pas évangéliser juste pour se donner une bonne conscience chrétienne ou juste pour donner des paroles comme ça aux gens. Mais c'est vraiment un travail qu'on fait avec le Saint-Esprit. Et le but est de porter du fruit, en fait. Et même si le fruit n'est pas comme visible de prime abord, dans notre perspective de l'évangélisation, on doit toujours sortir pour porter du fruit. Et ça va faire la différence forcément quand on va sortir. Donc, on doit évangéliser avec cette pleine conscience que alors qu'on va parler aux gens, il y a cette parole qui va sortir de nous, qui est inspirée de Dieu, qui va tout simplement faire la différence dans la vie des gens. C'est une parole puissante, qui peut convaincre, exhorter, qui a vraiment le potentiel de séparer ce qui est de la jointure, ce qui est de l'âme, comme la parole nous dit. Et c'est possible de le faire en un instant, alors qu'on est en train d'évangéliser par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit peut nous communiquer alors qu'on sort vraiment des stratégies d'évangélisation puissantes et précises qui ont un grand impact. Et il va nous donner, par exemple, des phrases qui, à elles, ont la capacité de changer la vie des gens, la vie même des familles, la vie de tout un village. C'est possible par le Saint-Esprit. On peut lire dans l'histoire de la femme samaritaine, on va lire que Jésus, il a parlé à la dame et elle est partie dans le village et puis toute la Samarie est amenée à Christ à cause de cette femme-là. Et puis, quand on lit l'histoire aussi du démoniaque de Gadara, Jésus lui a dit « va » et on dit qu'il est parti dans la Décapole pour annoncer la bonne nouvelle. Et la Décapole, c'est une zone de 10 villes, en fait. Ça veut dire qu'à travers lui, il y a 10 villes qui ont pu être touchées par l'évangile. Et on voit comme ça que le Saint-Esprit fait en fait une œuvre avec nous. Lorsqu'on sort souvent pour évangéliser dans la rue, tu dis une phrase à une personne, par exemple, mais toute sa famille est touchée par la suite, même si tu ne t'attendais pas à ça, mais juste parce que tu as été orienté par le Saint-Esprit. Et chaque fois que le Saint-Esprit est là, mais il est garant de l'impact, il est garant du fruit qu'on doit porter, en fait. Et on aura aussi besoin de foi et de persévérance, parce que quelquefois, le Saint-Esprit va nous demander de faire des choses grandeur nature. Le Saint-Esprit va nous demander de faire des choses qui sont très grandes. Pour certains, ça peut être des croisades d'évangélisation que le Saint-Esprit peut vous demander de faire. Le Saint-Esprit peut vous demander de mettre en place des programmes vraiment qui vont pas toucher juste une personne, mais une multitude. Et si on n'a pas cette foi et cette persévérance, ben on aura peur en fait d'agir. Donc c'est vraiment important de réaliser que Dieu a dit qu'il nous donne des nations. Et quand on dit nation, on ne parle pas de une ou deux personnes. On parle vraiment de beaucoup de personnes. Mm-hmm. Même quand Dieu dit que tout lion foule la plante de nos pieds, il nous le donne en héritage. Dans un lieu, il y a énormément de gens possibles. Donc, le terrain est vraiment vaste et large. On ne peut pas se contenter de petites récoltes, mais on doit vraiment travailler avec le Saint-Esprit pour évangéliser et pour porter davantage de fruits.
Amen. Merci, Aurélie. C'est ça, c'est pas en opposition avec ce qui a été dit la semaine dernière. Bien au contraire, ça vient vraiment compléter. La semaine dernière, si vous vous en souvenez, vous à la maison, si vous avez suivi l'émission, on a parlé vraiment d'être toujours prêt à évangéliser là sur le moment, être toujours disponible et disposé à le faire, et c'est une réalité. Et il y a des temps où on n'a pas fait préparer une sortie forcément d'évangélisation, c'est pas quelque chose qu'on a préparé. On va faire nos courses, on part au travail, on va simplement se balader dans la nature, et on a des opportunités qui viennent à nous. Et ça, c'est important d'être prêt, et on peut porter beaucoup de fruits simplement de cette façon-là. C'est un style de vie, exactement. Et il y a aujourd'hui, ce dont on parle, c'est ces temps d'évangélisation qui sont prévus, qui sont planifiés, qui sont conduits même par le Saint-Esprit, où on reçoit, comme tu le disais, justement des directions, et où le fruit va être souvent justement plus impressionnant, si on veut. Et c'est pas que ça veut pas dire que le fruit du one-to-one est petit, absolument pas. Une âme sauvée, c'est extraordinaire. Mais dans ces moments où il y a une stratégie qui est impulsée par le Saint-Esprit, le fruit va être encore plus massif. Et on peut le voir, on a un exemple dans la Bible, dans les Actes, on va voir juste après le baptême du Saint-Esprit des disciples, Actes 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ouais. En une prédication de la parole. 3000 âmes. Et ça, c'est des moments qui sont extraordinaires, et c'est sûr, on les vit pas tous les jours, mais c'est des moments qui sont tout à fait possibles.
On oublie parfois, dans l'évangélisation, que pour porter du fruit, la base, c'est la prière. Mm-hmm. On va laisser parler Célestine tout à l'heure c'est mon histoire, mais Célestine, c'est avant tout une femme de prière avant d'être une évangéliste. C'est une femme qui passe beaucoup de temps dans la prière. C'est une femme qui porte du fruit dans la prière. Mm-hmm. Donc avant de porter du fruit dans l'évangélisation, il va y avoir cette communion, ce cœur à cœur avec Dieu. Et il faut pas oublier que si on va évangéliser, c'est pas comme font peut-être des partis politiques ou d'autres courants d'idées. On va pas faire du prosélytisme pour faire du prosélytisme, parce qu'on veut remplir nos églises ou parce qu'on veut qu'il y ait des gens qui pensent comme nous. Mm-hmm. Parce que ça, il y a tellement de gens qui le font, c'est pas ça que Dieu veut pour nous. Quand on va évangéliser, c'est par amour pour les âmes et parce qu'on a conscience que si ils n'acceptent pas Christ du temps de leur pèlerinage sur terre, ils seront perdus. Oui. Ça sera fini pour eux. Et cet amour-là pour les âmes, il ne peut pas venir comme ça en y réfléchissant ou en raisonnant. Mm-hmm. Cet amour-là est déversé par l'Esprit de Dieu dans nos temps de prière.
Amen.
Et quand on lit l'histoire de gens qui ont été de grands évangélistes, qui ont fait beaucoup, beaucoup, qui ont porté beaucoup de fruits dans l'évangélisation, c'était des gens de prière, et même certains ont témoigné d'un temps particulier où cet amour de Dieu pour les âmes a été déversé. Il y a eu un avant et il y a eu un après, un jour où il y a eu un déclic, un déversement du Saint-Esprit, où ils ont compris, c'est même pas de la compréhension, ils ont intégrer cet amour pour les âmes et l'urgence du salut des perdus.
Exactement. Et Aurélie, ces temps de prière dont parle Anne, ça fait partie de cette relation qu'on développe, ce partenariat qu'on développe avec le Saint-Esprit.
Exactement, Evelyne. En fait, ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que vraiment la parole qui fait la différence, c'est la parole de Dieu dans la vie des gens. C'est pas juste qu'on vient, on dit des choses de nous-mêmes et puis ça porte du fruit. Pour porter du fruit, il faut parler la parole de Dieu. Il faut qu'on soit inspiré, en fait, par le Saint-Esprit pour apporter quelque chose de clair qui va faire la différence. Et dans l'intimité avec Dieu, comme Anne a dit, on reçoit des paroles précises concernant des gens. On reçoit des orientations. Dieu, il montre des personnes. Et vraiment, parfois, Dieu va te donner un... Dieu va te dire de faire une chose, mais même toi, t'as pas idée du résultat derrière. Mais le Saint-Esprit, lui, il travaille avec nous, il sait comment on doit s'y prendre, mais on le reçoit dans la prière. Et même, ça va devenir un fardeau, quelquefois, quand le Saint-Esprit nous communique des choses comme ça, et ça va faire la différence. On a, avec un petit groupe avec lequel je suis, ben, il y a une qui avait juste reçu de faire, un cocktail et des petites causeries comme ça entre femmes. Et là, une fois par mois, les samedis, comme ça, elle a reçu du Seigneur, on le fait et puis les gens viennent, on parle vraiment juste un témoignage et tout. Et les gens donnent leur vie au Seigneur, comme ça. Et on voit le fruit, en fait. Il y a même une fois, on l'a fait, c'est tout le monde qui s'est levé pour donner sa vie au Seigneur, toutes les personnes qui étaient venues. Et on voit, en fait, que c'est des choses qui sont inspirées de Dieu. Et c'est parce que c'est inspiré du Saint-Esprit qu'il y a un fruit qui est là et qu'on peut, et on sait que ce fruit va durer, en fait, parce que ça vient de l'Esprit de Dieu. Mais c'est dans la prière, c'est dans l'intimité que le Seigneur a révélé ces choses. Donc c'est dans l'intimité qu'on entretient ce partenariat, c'est dans l'intimité même qu'on reçoit des paroles puissantes pour changer des vies. Oui. Quelquefois, t'es juste devant quelqu'un, mais il y a une parole qui vient. Dans l'intimité, Dieu monte, il donne des paroles de connaissance sur la vie des gens. Et demain, tu sors, tu parles à quelqu'un de cette parole de connaissance. Non seulement sa vie est changée, mais celle de toute sa famille est changée et a des implications dans tout ça, en fait. Oui. Donc, le partenariat avec le Saint-Esprit, c'est pas négociable. Si on veut porter du fruit, c'est le Saint-Esprit qui est le garant du fruit, en fait. Oui. Il est le garant de ce miraculeux et on doit faire avec.
C'est important de bien mettre les choses dans l'ordre. L'évangélisation, ça porte du fruit et ça porte toujours du fruit. Mmh. Et le diable, c'est un menteur qui veut nous faire croire que le contraire. Mmh. Et malheureusement, on entend trop souvent, peut-être que parce que je suis un peu plus vieux, je l'ai entendu plus souvent que vous, mais malheureusement, on entend trop souvent des gens dire « Ah, c'est difficile ici. Dans cette ville, c'est difficile. Dans ce quartier, c'est difficile. » Les gens veulent plus entendre l'évangile, ça rentre pas. Et on se retrouve avec cette idée que le diable veut en fait nous mettre en disant c'est pas la peine d'évangéliser parce que le terrain est sec, c'est aride. Alors on entend dire qu'en France c'est difficile, qu'au Québec c'est difficile. C'est toujours difficile quelque part. Et je me souviens dans l'église où j'étais pasteur pendant 13 ans, il y a des gens qui disaient c'est difficile ici. Alors comme si on était dans la ville où c'était le plus difficile de tout le Québec.
C'est un petit peu décomplexant de dire ça quand même.
Ben oui, ben comme ça ça déresponsabilise ou déculpabilise en disant bon si on voit pas plus de fruits, c'est parce qu'on est dans le lieu où le plus difficile du Québec. Et un jour on a organisé justement de l'évangélisation de rue et c'était avec le ministère des Gédéon, et on est sorti dans la rue, et il y a eu du fruit, et le responsable des Gédéon dit au groupe, c'est formidable, j'ai jamais vu une ville où c'était aussi facile. Alors, à des gens qui disaient, on est dans le lieu où c'est plus difficile, lui dit, pourtant je fais le tour du Québec, je vais de ville en ville évangéliser dans la rue, vrai. Et puis là, c'est facile, c'est comme si les fruits étaient là, il n'y avait qu'à les cueillir. Ouais. Et le diable, du coup, veut nous faire croire qu'il ne faut pas sortir parce qu'on ne porte pas de fruits, parce que c'est du mensonge. Ouais. Et la prière, justement, c'est prendre ce temps avec Dieu, où Dieu va venir nous convaincre que le fruit est là. Il va venir par son esprit nous révéler que la moisson est blanche. Ouais. Et dans la prière, on défait les pensées du diable, on n'est pas là en train de dire « Non, c'est difficile, il n'y aura pas de fruit. » On est au contraire en train de se dire « Le fruit est là, le Seigneur nous envoie, il est avec nous, les âmes sont là. » Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que quasiment à chaque fois que j'ai emmené des groupes de jeunes ou des gens à l'extérieur, j'entends souvent des gens dire « Ah ben, je ne pensais pas que les gens allaient répondre comme ça. »
Oui.
Comme s'il y a toujours cet a priori, oh, aller dans la rue ou aller faire du porte-à-porte, ça va être difficile, on va nous rejeter, personne va vouloir de nous. Bon, peut-être qu'il va y avoir un ou deux grincheux, mais c'est juste un ou deux. Mais d'une manière générale, on entend dire, waouh, les gens écoutent.
C'est ça. Et en fait, des fois, ce qu'on veut faire aussi, c'est qu'on veut reproduire ce qui a marché quelque part, où on entend une histoire et puis, oh, waouh, ça a marché. Oh, c'est une bonne stratégie, ça, je vais la reprendre pour mon groupe d'évangélisation, pour mon église. Et on oublie qu'en fait, le Saint-Esprit connaît les cœurs des personnes qu'on va aller voir mieux que nous. Et il sait exactement. Et ce qui a fonctionné avec un groupe ne va peut-être pas fonctionner avec ton groupe. D'où vraiment ce partenariat à développer avec le Saint-Esprit pour ne pas être juste dans un espèce de copiage. Mais il faut pas oublier que Dieu prépare le terrain. Mm-hmm. Si la moisson est blanche, c'est que justement il y a eu toute une progression qui s'est faite avant. Et Dieu a fait un travail avec parfois des hommes et des femmes de Dieu dans la prière, on ne le sait pas, qui ont commencé à vraiment faire croître justement cette moisson, qui ont des hommes, des femmes qui ont payé le prix même en allant faire de l'évangélisation justement de porte à porte, en en distribuant peut-être des prospectus qui n'ont pas porté de fruits, mais qui ont préparé le terrain. Donc il faut vraiment être conduit du Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans les bonnes traces que Dieu a préparées d'avance. Et là, en fait, on est spectateur de ce que Dieu accomplit. Hein.
Oui, et même, moi, ça m'arrive souvent quand je prie pour les personnes, vraiment, par rapport à l'évangélisation. Ça m'arrive dans la prière, avant de sortir. Là, je suis comme chez moi à la maison. Mm-hmm. Mais ça m'arrive de prier des choses comme ça que je n'avais pas calculées. Et quand je sors évangéliser, c'est vraiment les mêmes cas que je rencontre dans la rue. Mais sans faire exprès. Tu pries comme ça, tu te rends compte que peut-être tu pries pour quelqu'un qui a une scoliose, des trucs comme ça. Et le lendemain, tu parles à quelqu'un qui a une scoliose. Mmh. Et en fait, dans la prière, le Saint-Esprit nous prépare même au terrain, en fait. Parce que la vérité, c'est que le terrain, c'est le terrain de l'ennemi. Hein. Mmh. Et on ne va pas juste sortir comme ça et se dire on aura du fruit. Mais le Saint-Esprit nous prépare dans la prière. Il nous prépare aux choses qui vont arriver sur le terrain. Et dans ce partenariat, comme tu dis, Yveline, on voit en fait que ce qui a marché hier ne va pas marcher forcément demain, parce que c'est pas les mêmes personnes, c'est même pas la même parole que tu vas entendre dans la prière. Pour certains cas, tu vas entendre certaines choses. Pour d'autres cas, tu vas entendre des choses plus différentes. Mm-hmm. Parfois, c'est même pour nous que on prie, dans le sens que le Saint-Esprit te conduit parfois quand tu vas évangéliser, il va te conduire à prier pour les personnes. Parfois, il va te conduire à prier pour toi, mais c'est parce que ce qui t'attend dehors. Mais il y a quelque chose qui va se faire qui fait que tu as besoin d'être fortifié dans ton esprit, en fait. Mm-hmm. Et tout ça, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit. Mm-hmm. Et c'est dans ce partenariat qu'on devient plus fort. Et c'est parce qu'il y a ce temps préalable que face aux situations, on ne tremble pas. Parce qu'il y a vraiment des gens, aussi parfois violents dans l'évangélisation, mais c'est parce que tu sais que tu es revêtu du Saint-Esprit que tu n'as pas peur, en fait. Donc, c'est aussi ça, le partenariat avec le Saint-Esprit.
Et quelque chose qui est important, c'est pour les responsables d'évangélisation dans les églises, de savoir prier, discerner et communiquer avec les gens qui sont dans l'équipe d'évangélisation pour voir sont où les fardeaux des personnes. Parce que tu pourrais envoyer pour faire une réunion d'évangélisation pour la jeunesse. Normalement, tu vas avoir un qui est plus jeune qui va prêcher. Mm-hmm. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Il y a des personnes qui vont avoir un fardeau pour peut-être des personnes âgées dans des foyers comme ça qui allaient là. Il y a des personnes comme Aurélie a dit, je vais ouvrir ma maison pour faire quelque chose des samedis. Le Saint-Esprit a déposé des fardeaux et des façons de faire dans les personnes. Mm-hmm. Et souvent, on est trop bloqué au classique et il est important dans la rue. Mais il y a des façons de faire qui sont là. Et puis ça, c'est vraiment aux responsables de pouvoir communiquer avec les gens. Parce que vraiment, je crois que le Saint-Esprit va être très, très, très utile avec certaines personnes dans différents environnements. Oui. Et il va avoir un fruit qui va être porté. Et tout comme que la semaine dernière, c'était plus un style de vie à ton travail ou peu importe, au magasin. Mais là, c'est le partenariat avec le Saint-Esprit dans les talents, les dons, les fardeaux qu'il a mis dans chaque personne. Et ça doit vraiment être travaillé dans les églises pour vraiment avoir plus de fruits, je le crois, parce que on est souvent bloqué juste à aller dans les rues, ce qui est très bien. Mais il y a différentes façons de faire, je crois. Et puis ça, c'est dans la prière qu'on va le recevoir.
Mais si vous vous souvenez bien, parce que là, on parle de stratégie individuelle. C'est-à-dire que le Saint-Esprit va vraiment nous donner notre façon d'approcher telle et telle âme. Mais je voudrais aussi rappeler que le Saint-Esprit nous donne aussi des stratégies globales.
Oui,
et j'avais donné un exemple concret quand j'avais raconté le réveil à Cali, en Colombie, avec l'évangéliste Julio Ruibal.
Oui.
Et quand, avant le déversement du Saint-Esprit, puis les conversions par dizaines de milliers qu'il y a eu en Colombie dans les années 70, je crois fin 70, début 80, il y a eu des groupes de prière qui se sont faits spécifiquement Donc les pasteurs de différentes dénominations se rassemblaient avec des chrétiens fidèles pour prier pour que le Saint-Esprit leur révèle la stratégie pour amener l'évangile dans cette ville. Et le Saint-Esprit leur a montré précisément comment s'y prendre. Il y avait des citadelles à abattre avant de se lancer dans les rues.
Oui,
si tu te souviens bien, il y avait de la sorcellerie dans cette ville-là. Il y avait un occultisme qui était là. Et si c'était lancé tête baissée avec juste la bouche en cœur, ils se seraient plantés. Mais le Saint-Esprit avait tout prévu à l'avance et leur a donné une stratégie qui était victorieuse spirituellement.
Oui.
Donc il y a des stratégies individuelles et il y a des stratégies de territoire.
Tout à fait. Et Aurélie, dans toutes ces stratégies qu'on peut avoir, toute cette façon de faire, le fruit, comme on l'a dit, il n'est pas toujours visible, mais on doit être persévérant et demeurer dans la foi.
Oui, c'est vrai, parce que quand le Seigneur va nous demander de poser des actions... là, je pense spécifiquement, je ne pense pas à l'évangélisation de rue, je pense vraiment à des programmes que le Seigneur peut inspirer pour l'évangélisation. Parfois, quand Dieu nous montre des choses, c'est gros, en fait. C'est énorme. On se dit, on ne peut pas le porter tout seul. Et il va falloir faire preuve de foi et de persévérance, justement, pour porter ces programmes que le Seigneur va nous communiquer dans notre cœur, alors qu'on aura prié pour évangéliser. Et vraiment, il va falloir, comme je dis, manifester cette foi, en fait. Et de dire, OK, Seigneur, tu m'as montré, par exemple, tu m'as dit de faire, par exemple, une croisade d'évangélisation. Seigneur, je vais le faire. Et, c'est pas toujours évident. Faire une croisade, on se lève pas le matin, on dit je vais faire une croisade. Ça prend vraiment beaucoup de choses au préalable.
Ah oui.
Et il faut être persévérant aussi pour pouvoir mettre en place toutes ces choses-là, pour pouvoir faire ce que Dieu nous aura demandé de faire. Et aussi, la foi aussi, pourquoi? Parce que il faut s'attendre à de grands miracles de la part du Seigneur. On a vu dans le verset du jour que Pierre, il a parlé, il y a 3000 personnes qui sont venues à Dieu. Mais ça prend la foi de savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 personnes qui vont donner leur vie au Seigneur parce que moi, j'ai parlé de Christ. Aujourd'hui, dans mon quartier, je vais sortir mon mégaphone et puis tout mon quartier va donner sa vie au Seigneur. C'est la foi aussi. Et ça, c'est le Seigneur nous inspire des choses comme ça, mais il faut pas avoir peur. Il faut faire preuve de persévérance. Et si ça n'a pas peut-être fonctionné de prime abord, ça ne veut pas dire que demain, ça va pas fonctionner. Donc, chaque fois que le Seigneur nous met à cœur des actions, prenons ça vraiment avec courage et puis faisons ce que Dieu nous demande de faire.
Et puis aussi, parce qu'on l'a aussi bien souvent entendu dans beaucoup de témoignages, il y en a qui sont allés, ils ont vu pas de fruits, et ils sont peut-être revenus un peu tristes.
Ouais.
Et quelques années plus tard, ils apprennent que ce jour-là, quelqu'un avait été touché, mais ils l'ont pas vu. Donc, l'évangélisation porte du fruit, point barre, comme on dit, hein, point d'exclamation. Et même si vous revenez, vous avez l'impression de revenir bredouille en disant, j'ai pas vu le fruit escompté, il y a quelque chose qui se passe dans les cœurs, et peut-être qu'il y a des choses que vous avez pas vues, que vous saurez peut-être plus tard, ou jamais, ou en tout cas, au ciel, on le saura.
C'est
mais en tout cas, vous aurez la confirmation au ciel que l'évangélisation porte de fruits, quoi qu'il arrive.
Tout à fait, la parole de Dieu, elle est efficace.
J'ai un petit témoignage par rapport à ce que Pasteur Jonathan a dit. J'avais évangélisé une fille dans un bus à Montréal, mais je lui avais laissé mon numéro et puis je me souvenais même plus d'elle. Et quelques mois plus tard, elle m'avait envoyé un SMS pour me dire « Ah, je suis Auréane, que tu as évangélisé dans le bus à Montréal. J'ai décidé de me faire baptiser suite à ce que tu m'avais dit, etc. Oh. » Et aujourd'hui, vraiment, je sers dans mon église et ça avait porté du fruit, même si je ne le savais pas à cet instant.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va découvrir maintenant un témoignage aussi qui porte du fruit, celui de Célestine dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire » où aujourd'hui j'ai le grand plaisir de vous présenter une sœur qui a un cœur pour l'évangélisation, Célestine, bonjour.
Bonjour Evelyne.
Est-ce que vous allez bien?
Moi ça va très bien, vous-même?
Ça va très bien, merci, je suis ravie de vous avoir parce que vous avez un super bel appel, un super beau ministère parce que c'est vraiment un ministère. Vous êtes responsable de l'évangélisation à l'église Sans Frontières ici au Québec.
Gloire à Dieu.
Et vous portez beaucoup de fruits et c'est un plaisir vraiment de vous recevoir aujourd'hui.
Merci.
Célestine, vous êtes née au Cameroun et vous êtes l'heureuse maman de 4 beaux enfants qui servent le Seigneur avec vous.
Exact.
Et lorsque vous êtes née, vous aviez une sœur jumelle qui est née à peu près 45 minutes avant vous et qui malheureusement, à l'âge de 3 ans, est décédée.
Oui. Alors, ma sœur jumelle, elle est décédée à l'âge de 3 ans. Et évidemment, le décès de ma sœur jumelle a généré vraiment des gros problèmes au niveau de ma famille. Ma mère qui me rappelait assez régulièrement que j'avais failli, elle avait failli mourir en fait à cause de moi.
Ah, lors de l'accouchement.
Lors de l'accouchement. Mmh. Alors pourquoi? Parce que je suis sortie lors de l'accouchement, je suis sortie 45 minutes après ma sœur jumelle. Mmh. J'étais littéralement le bouc émissaire dans ma famille, beaucoup de tensions, vraiment dans la famille. Mes parents allaient à l'église, mais à la maison, il n'y avait aucun fruit. Et évidemment, j'étais vraiment perturbée par cette situation. Je me sentais vraiment coupable, vraiment d'avoir voulu tuer ma mère.
Oh.
Et donc, j'ai souffert littéralement du rejet. Et c'était vraiment difficile. Famille dysfonctionnelle, il y avait très peu de communication chez nous à la maison et les liens de confiance étaient brisés.
Ça, c'est difficile à vivre. Et quand vous étiez adolescente, en plus, vos parents ont divorcé et là encore, vous vous sentez responsable de ce divorce.
Tout à fait. À mon entrée au secondaire, mes parents sont divorcés. Et encore une fois de plus, je me suis sentie responsable encore du divorce de mes parents, Yveline. C'était pas facile. Et pendant cette période, justement, j'étais dans l'adolescence, j'avais beaucoup de questions qui se bousculaient vraiment dans mes pensées. Pourquoi je suis sur la terre? Est-ce que Dieu existe réellement? Et finalement, j'ai conclu que Dieu n'existait pas. Plus tard, je pouvais voir un verset justement dans la parole de Dieu qui dit que, comment ça dit encore, que l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Et cette période de l'année, c'était vraiment difficile. Mon caractère, mes pensées, mon identité ont vraiment été affectées par le rejet, la culpabilité. Et tout ça m'a amené vraiment à renier définitivement l'existence de Dieu. Ce qui m'a poussée à adhérer dans la théorie de Darwin. Darwin qui dit que l'homme et le singe ont le même ancêtre. Et on s'entend ici, c'est juste une théorie.
Bien sûr. C'est
du tout pas fondé sur des faits. Et plus tard, j'ai compris que la théorie de Darwin, en fait, a contribué, en fait, à briser le lien entre l'homme et Dieu.
Exactement.
Laissant vraiment Dieu sans but et sans sens.
L'homme sans but, oui, c'est ça.
Ouais.
Et ça vous a d'ailleurs, cette théorie-là et ce reniement de Dieu, vous a plongé dans une tristesse très profonde qui vous a accompagné jusqu'au Québec lorsque vous avez immigré avec votre famille. Et là encore, la tristesse était toujours plus forte.
La tristesse était encore très, très forte parce que j'arrive au Québec, nouveau contexte. Donc, choc culturel, l'hiver, la neige, l'alimentation. Oui. Mon univers était, je dirais, désertique et chaotique. C'était vraiment difficile. Mon cœur était brisé, blessé. Ma vie ressemblait vraiment à, comme l'a dit, un figuier sec. Vraiment sans vie.
C'est ça.
Aucun but.
Et alors que vous avez commencé des études pour devenir professeur, un jour, vous avez fait une rencontre qui a changé votre vie dans le métro.
Exactement. Vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cette saison. J'ai décidé, en fait, de m'inscrire en enseignement des sciences au secondaire, donc c'est à l'UQAM. Et un de ces soirs dont j'ai terminé mon cours, je suis allée au métro, et par la grâce de Dieu, il y a une dame qui est venue vers moi. Elle m'appelle ma fille. Que je me suis sentie bien. Elle me dit, je te vois triste. Est-ce que tu as des problèmes? Et si j'arrête ici un instant, je dis, cette femme, elle a discerné comme Jésus dans la parole qui regardait la foule languissante et abattue, Jésus qui était ému de compassion. Cette femme, elle avait vraiment beaucoup de compassion à mon égard, et puis elle a discerné vraiment ma vie qui était languissante et abattue. Et la question que je pourrais vraiment poser, sommes-nous aussi remplis de compassion, vraiment, pour tous ceux qui nous entourent? Est-ce que nous voyons la foule comme Jésus les voit? Alors, si je reviens dans l'histoire, j'ai fondu en larmes. Et cette dame, elle m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré sur son épaule. Quelques minutes plus tard, je lui ai raconté brièvement mes problèmes. Et puis, je lui ai dit, madame, j'ai réellement besoin d'aide. Et alors, ce qu'elle fait, elle me tend dans ce Nouveau Testament, le Nouveau Testament de Gédéon. Puis elle me dit, Jésus. Sur le coup, je lui dis, je ne crois pas en Jésus-Christ. Et là, elle me dit, je pourrais te raconter toute mon histoire, mais j'aimerais que tu puisses vivre ta propre expérience avec Jésus. Elle m'a tellement parlé avec une telle conviction que je lui ai dit, ben, j'allais essayer. Puis elle m'a même donné son numéro de téléphone. Mmh. Alors, j'arrive chez nous, je rentre dans ma chambre, je m'assois sur mon lit, je regarde le plafond. J'ai dit, Dieu Jésus, si tu es tel que décrit par cette femme au métro, vraiment, j'ai besoin de toi. Je souffre, j'ai besoin de toi, manifeste-toi dans ma vie. Au même instant, comme cette femme à la perte de sang. J'ai senti vraiment une telle chaleur, la joie, la paix qui m'ont littéralement transcendé tout mon corps. Et il y avait une telle présence de Dieu dans ma chambre. Quelque chose de surnaturel était en train de prendre place. Et vraiment une expérience vraiment extraordinaire. Et je comme la parole de Dieu dit aussi, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon âme rentrait dans un repos incroyable.
C'est incroyable.
Je me sentais être libérée vraiment du poids de la culpabilité, la honte, l'inquiétude, l'anxiété, le stress. Waouh, quelle belle expérience.
Tout ça est parti instantanément, simplement à cause de cette petite prière.
Exact, instantanément. Et quelques années plus tard, une année plus tard, mm-hmm. je suis passée par les eaux du baptême. Waouh, c'est vraiment un nouveau départ.
Amen.
Une nouvelle vie, un nouveau cœur, une nouvelle destinée, une nouvelle vision. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur pour cela.
Amen. Ouais. Et alors que vous avez eu la grâce de trouver un magnifique emploi dans une école, exact. Vous êtes devenue enseignante,
ouais.
vous avez dit à Dieu vraiment de vous équiper pour pouvoir être témoin dans cette école.
Tout à fait. Alors, quand j'ai terminé ma formation dans l'UQAM en enseignement des sciences secondaires, Dieu, dans sa grâce, m'a ouvert une porte dans une école secondaire. Et dès les premières semaines, quand je suis arrivée, j'ai dit, Seigneur, quel est ton agenda pour mm-hmm. moi dans cette école? Je veux vraiment te servir. Et le Seigneur m'a conduit dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19, qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et dans Actes 18, versets 9 à 10, c'est cette vision de l'apôtre Paul, mais que vraiment le Seigneur m'a parlé là-dessus. Il dit, parle, ne te tais point. Ne crains point parce que je suis avec toi. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal.
Wow.
Parle, ne te tais point. J'ai un peuple nombreux dans cette ville. Et un peu comme Esther, je me suis dit, si je dois périr, je périrai. Comme l'apôtre Paul disait aussi, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Alors j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton zèle. J'ai besoin de ton audace. Et comme Dieu fait bien les choses, et il envoyait les disciples deux à deux, mm-hmm. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré un de mes collègues de travail, un homme de foi, un homme passionné pour les âmes. Son nom, c'est Claude Watine.
Mm.
Alors, nous avons connecté ensemble et nous avons donc mis sur pied dans un groupe de prière dans ma classe. Et à tous les midis, donc, on se réunissait avec les jeunes de 12 à 17 ans, vraiment pour prier, pour méditer la parole. Et ça a duré environ 2 ans. Et demi.
C'est extraordinaire dans une école ouais. et le directeur ne l'a pas su pendant ces 2 ans et demi.
Exact.
Vous avez vu la liberté. Vous étiez combien dans cette salle de classe?
On était environ une trentaine.
C'est énorme quand même.
C'est vraiment énorme.
Tous ces jeunes que vous avez amenés au Seigneur finalement.
Exact, qui ont été touchés, transformés par la puissance de Dieu.
C'est magnifique.
Puis évidemment, il y a eu quelques plaintes donc, par la suite. Et donc, on a été convoqués par la direction qui nous a demandé donc, de cesser de telles pratiques. Que l'Église ne pouvait pas se retrouver dans une école laïque. Alors, nous avons prié, puis Dieu, dans sa grâce, nous a pourvu un espace à 10 minutes de l'école, au sous-sol d'une église évangélique haïtienne, où on se réunit jusqu'à aujourd'hui à tous les mercredis midi.
Tous les mercredis midi, donc oui. Ces jeunes viennent, il y en a parfois des centaines qui
viennent. Des centaines, 200, 300 jeunes.
Vous leur fournissez un repas.
Exactement.
Et vous priez ensemble, vous les exhortez, c'est ça?
Exact, on les exhorte, et évidemment, on touche justement à des sujets d'actualité, comme par exemple la sexualité, mm-hmm. l'amour de Dieu, plusieurs sujets en mm-hmm. fait qui leur tient à cœur. Mais la beauté dans ça, c'est de voir la puissance du Saint-Esprit toucher ces jeunes par l'amour.
Amen.
Et les transformer. On pouvait voir même les fruits dans leurs études aussi en classe, des jeunes vraiment disciplinés, engagés vraiment dans leurs études. On pouvait voir vraiment des fruits qui étaient palpables.
C'est magnifique.
Ouais.
Et là aussi, il y a eu des plaintes de parents. Des journaux ont écrit des articles sur ce que vous faisiez, mais vous me disiez, ça a fait notre publicité finalement. Ça ne nous a pas ébranlé.
Ça ne nous a du tout pas ébranlé. Mmh. C'est vraiment une plainte des parents. Et tout. Et vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que ça a plutôt contribué vraiment à répandre l'Évangile. D'ailleurs, au contraire, nous avons plutôt prié, comme dans les Actes des Apôtres, « Seigneur, donne-nous encore plus d'assurance, mm-hmm. donne-nous encore plus de zèle, d'audace et de courage vraiment pour continuer à prêcher l'Évangile. Mm-hmm. » Vous savez, la foi, c'est risqué. Mm-hmm. Nous avons risqué. Et Dieu s'est glorifié.
Amen, amen.
Ouais, ouais.
Et il y a un autre événement que vous avez organisé tous les samedis matins avec les membres de votre église, certains membres de votre église. Vous allez dans le métro pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous avez donc une table, vous offrez ouais. un peu de nourriture gratuite, des Bibles. Et là, les gens viennent vous voir et vous voyez vraiment des fruits.
Ah oui, c'est extraordinaire ce que Dieu fait. Vraiment dans les métros. Encore là, c'est vraiment une stratégie du Saint-Esprit qui nous a vraiment demandé de monter une table. D'ailleurs, vous allez voir sur les images, mm-hmm. on a les évangiles justement du ministère des Gédéons. Nous avons de la nourriture. La nourriture est pourvue justement par provision communautaire de notre église, mm-hmm. l'église Sans Frontières. Mm-hmm. Et je bénis vraiment Dieu pour cela. Et waouh! Vraiment, la puissance du Saint-Esprit est vraiment à l'œuvre. Nous avons une grande liberté où nous prêchons vraiment à haute voix que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ, il est vivant, il est tout-puissant, il guérit, il relève, il fortifie, il soutient. Puis des multitudes viennent à nos tables, mmh. ils reçoivent l'Évangile, on fait même l'imposition des mains. Nous sommes témoins des guérisons instantanées.
Magnifique.
Au métro. Puis on peut prendre aussi leur téléphone pour des suivis, puis on les dirige justement dans les assemblées, dépendamment justement du lieu géographique.
C'est ça, c'est que les gens vraiment se donnent au Seigneur.
Ouais.
Et vous avez aussi une énorme moisson d'âmes avec une idée qui, selon moi, une idée de Dieu, où pendant le temps des fêtes, en fait, vous avez offert des cadeaux, des sacs cadeaux, en faisant du porte-à-porte. Vous en
oui.
avez un ici,
oui,
qu'on peut peut-être découvrir.
Effectivement, donc j'ai un exemple justement mm-hmm. ici. Alors l'idée vient vraiment, c'est la vision du Saint-Esprit, c'est en 2015. Alors que je suis allée justement au congrès régional de Gédéon à Québec. C'est une formation qui a duré toute la journée. Et Dieu, suite à cette formation, a vraiment déposé dans mon cœur c'est cette forme d'évangélisation stratégique par des cadeaux.
Mm-hmm.
Wow! Vraiment, on bénit le Seigneur. C'est vraiment, notre but ici, c'est vraiment d'apporter l'Évangile vraiment dans notre communauté, dans notre ville. Et c'est du porte-à-porte.
Mm-hmm.
Vraiment, on rencontre les familles dans leur réalité, dans leur souffrance. Ils nous ouvrent la porte, ils nous accueillent dans leur salon, ils nous parlent de leurs problèmes. Et ce qu'on leur dit, en fait, c'est que le cadeau qu'on leur donne, c'est juste quelque chose de symbolique. Mais le véritable cadeau parfait et complet, c'est Jésus-Christ. Et donc, ils reçoivent Christ dans leur cœur. On prie pour différents besoins. Ça peut être besoin d'emploi, besoin de santé. Waouh, la puissance du Saint-Esprit, c'est incroyable. Juste l'année dernière, nous avons préparé 927 sacs. Il y a eu près de 400 personnes qui ont donné leur vie à Jésus.
C'est exceptionnel. C'est presque 50%. C'est incroyable.
Littéralement.
Wow.
Puis cette année en cours, dont nous sommes au mois de, nous sommes au mois d'octobre, vous avez vu vraiment l'équipe formidable avec qui nous travaillons. Et on voudrait vraiment préparer 1000 sacs cadeaux pour faire encore du porte-à-porte. Et nous croyons vraiment que le Saint-Esprit va encore se manifester de façon incroyable. Les vies sont touchées par l'amour de Dieu. Vraiment, les gens souffrent. Les gens ont besoin d'être connectés vraiment à Dieu.
Amen, amen. Et je vais vous donner quelques minutes, Célestine, parce que vous aviez vraiment à cœur d'encourager ouais. des téléspectateurs pour l'évangélisation. Je vais simplement déplacer le sac ouais. et je vais vous laisser leur partager votre cœur.
Excellent. Merci, Evelyne. Alors, je m'adresse à vous, chers disciples de Christ. Combien c'est important, l'évangélisation. Nous sommes la clé pour libérer la destinée des gens. Nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous. Nous sommes la réponse vraiment aux besoins de cette société. Je nous exhorte vraiment d'être des acteurs et non des consommateurs. Jésus-Christ nous a sauvés, pas seulement pour qu'on aille au ciel, mais c'est pour qu'on amène le ciel sur la terre. Nous sommes rois et sacrificateurs. Nous sommes cette lumière appelée à briller, à briller et à briller. Donc, levons-nous, nous sommes cette armée pour vraiment annoncer la bonne nouvelle. Merci.
Amen. Merci à vous, Célestine. Merci, vraiment, votre cœur me touche beaucoup. J'aime beaucoup ouais. ce que vous faites et vraiment que vous portiez encore plus de fruits, que le Saint-Esprit se serve encore plus de vous. Merci infiniment d'être venue témoigner.
Merci beaucoup, Evelyne, pour cette opportunité de partager.
Avec joie. Alors, si le témoignage vous a parlé, en tout cas, moi, personnellement, c'est un témoignage qui m'a beaucoup bouleversée. Quand on découvre ces fruits qu'elle a portés avec ses paquets cadeaux, ce porte-à-porte, juste ça. Bon, il y a dans les écoles, il y a tout ça. Mais moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est ces petits cadeaux, ce porte-à-porte qu'elle a fait. 900 paquets, ouais. 400 conversions. Ouais. C'est très rentable. C'est très rentable. Mais je me dis que cette stratégie était du Saint-Esprit. Amen. C'est certain. C'est clair. Pour porter de tels fruits, c'est que vraiment, ça émane du Saint-Esprit. Et à la maison, je voudrais vraiment vous encourager à la fin de cette émission à chercher justement les directions du Saint-Esprit. Vous êtes peut-être responsable d'évangélisation, vous êtes peut-être impliqué dans un groupe d'évangélisation ou vous êtes peut-être tout simplement un chrétien qui croit qu'il doit évangéliser, donc un chrétien normal. Et je vais vous encourager à chercher vraiment à développer ce partenariat avec le Saint-Esprit, lui demandant, mais quelle est ta stratégie? Quelle est ta stratégie pour mon quartier? Quelle est ta stratégie pour mon voisin de palier? Quelle est ta stratégie pour ma ville? Et je crois vraiment que Dieu va déverser quelque chose dans votre cœur, une direction précise qui va peut-être vous surprendre, vous paraître complètement folle, complètement surprenante. Mais si c'est la stratégie que Dieu vous donne, c'est qu'elle va porter du fruit. Parce que quand la parole de Dieu est prêchée, les cœurs sont forcément touchés. Il se passe quelque chose. N'oubliez pas que la parole de Dieu est puissante et elle est efficace. Elle transperce les cœurs les plus durs. Donc je veux vraiment qu'à la fin de cette émission, nous ayons tous ce réflexe d'aller demander à Dieu, déverse ton amour pour les perdus dans mon cœur et donne-moi la stratégie pour porter du fruit. Donc peut-être que vous allez passer votre week-end à aller parler du Seigneur ou simplement à chercher la face de Dieu à la maison, mais en tout cas je vous souhaite de passer un merveilleux week-end dans la présence de Dieu et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.